you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André, prise de son assurée ce soir par Antoine Pitiloni, réalisation Daniel Fino. Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Florian Guettet, Frédéric Bonnet pour parler ensemble de l'exposition Georg Baselitz à la Fondation Beyeler à Bâle, en Suisse. Celle consacrée à Anne Collière jusqu'au 25 mars au FRAC Normandie-Rouen. Et puis, retour à Paris à la maison Victor Hugo pour La Folie en tête aux racines de l'art brut. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le film Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico qui est sorti aujourd'hui sur les écrans et dont nous parlerons dans la dispute de vendredi. Et nous ouvrons cette dispute en nous rendant donc à la Fondation Beyeler à Bâle, l'un des plus beaux musées du monde, tout comme Baselitz, 80 ans cette année, peut-être l'un des plus grands plasticiens vivants. En tout cas, Lioret sur Twitter nous prévient, si quelqu'un parmi les disputeurs dit du mal du grand Baselitz, je spamme le compte de la dispute toute la soirée. Spammer si nécessité se fait jour. On va parler de cette rétrospective consacrée à l'artiste par la Fondation pour une exposition qui embrasse quelques 60 années de pratique artistique en 90 tableaux et une douzaine de sculptures. Surtout vous, parce que pas moi. Et vous êtes allé à Beyeler, à la Fondation Beyeler à Bâle, et on y entre en suivant Corinne Rondeau.
Ben on y entre de manière rétrospective. Ah non, pas que, parce que c'est des dernières œuvres qui nous accueillent avant de rentrer dans l'exposition. Alors moi, je me suis toujours tenue un petit peu en recul de ce travail qui m'a toujours un peu effrayée, en fait, la peinture de Baselitz. Je trouve que c'est un peu la rencontre entre la viande et le boucher. J'ai toujours la sensation qu'il a travaillé la matière picturale avec de la hache et effectivement, il y va à la hache pour la sculpture. Donc j'étais très curieuse de savoir ce qu'une rétrospective pourrait donner, justement, du début jusqu'à la fin. Alors évidemment, on rentre avec des tableaux du début des années 60 avec de la pleine patte, on va dire, des figures ithyphaliques. Des personnages qui ont un petit peu des érections ici et là, et souvent des jeunes personnages, on va dire, avec des figurations aussi d'une époque plutôt nazie, on va dire, qui aura fait scandale. Et puis on va aller très vite dans les années 60 et fin 69, c'est le moment où il retourne les figures comme une manière de dire je ne céderai pas au figuratif, mais je ne céderai pas non plus à ce qu'elles deviennent formalistes. Donc je continue à faire de la peinture qui représente quelque chose, mais en même temps, voilà, je vais peut-être vous faire tourner la tête, ou en bourrique, ça dépend.
Oui, la tête en bas, les pieds en haut.
Voilà, et on voit d'ailleurs, même en 64, dans un tableau qui s'appelle La Croix, où il y a son village d'ailleurs, une partie où déjà une partie du village est retournée. Donc, et puis on arrive effectivement dans ces premières salles qui sont assez fortes au niveau plastique, même cette pleine patte qui est dure à voir. C'est vraiment, il y a un très beau mur de fragments anatomiques, de pieds notamment. Donc là, la rencontre entre le boucher et la viande a vraiment lieu. Et donc il y a cette manière chez lui de. Pour moi, j'ai toujours eu la sensation que c'était quelqu'un qui avait une posture, simplement même le fait de retourner ou d'insister. l'ambiguïté dans le retournement de la figuration, la manière de revendiquer une peinture allemande en disant c'est une peinture qui est laide, en même temps c'est aussi l'histoire qui est surchargée à l'intérieur de ça. Donc il y avait pour moi quelque chose d'une insincérité, mais en même temps ça peut faire aussi des bons plasticiens, on va dire. Et donc effectivement, moi j'étais très très étonnée du parcours jusqu'à la fin de cet artiste, parce que je ne m'attendais pas du tout à ses dernières œuvres, puisqu'il va retravailler notamment un remix des œuvres qu'il a déjà faites dans les années 80, qui sont plutôt néo-expressionnistes. Là, on arrive vraiment à des formes très, très étonnantes. Et je trouve que la proposition qui est faite au niveau de la scénographie est assez belle au niveau des sculptures. Je trouve qu'il y a une très belle ligne qui est faite entre la figure qui aura fait scandale à la Biennale de Venise, vous savez, cette sculpture de femme avec un bras levé dont on a pensé qu'effectivement c'était un salut nazi, et dans une longue perspective, on a un personnage masculin pour cette fois-ci de debout, et on retrouve deux grandes sculptures beaucoup plus tardives, récentes d'ailleurs, dans la dernière salle, avec des tableaux très éthérés pour un Baslitz, et en même temps, ils sont là pour le coup placé dans une diagonale dans la salle, et c'est aussi une manière de répéter un des motifs assez présents dans l'œuvre de Baslitz, ce sont les couples, enfin le couple surtout, lui et sa femme Elke, dont il est allé à peu près la seule femme qu'il peint.
Florian Guettet, après ce premier grand tour de l'exposition en compagnie de Corinne Rondeau, Baslitz.
Je m'étais beaucoup arrêté en fait à la figure un peu du provocateur qui fait ses sorties médiatiques, qui est un peu son concession, etc., qui a un franc-parler, et donc avec une forme de peinture qui a son image assez brute, assez. Et finalement, à travers cette rétrospective, je découvre un nihiliste. Je pense que c'est vraiment un profondément nihiliste, et quelqu'un qui à partir de ce nihilisme-là promeut quand même une forme de création et de création possible. C'est quelqu'un qui effectivement ne croit plus, il me semble, en tout cas à la transcendance ou à des formes de sublimation dans la culture d'après-guerre. C'est quelqu'un qui veut renverser les valeurs, alors cette fois pas à coup de marteau comme l'avait pu le faire Nietzsche, mais à coup de hache, effectivement. Et c'est quelqu'un qui refuse finalement l'élévation. Et c'est vrai que ce que je prenais aussi pour une coquetterie, à savoir ces formes de renversement des figures sur lesquelles il a jamais vraiment donné d'explication, c'est aussi une forme de gravité et de retrouver le contact avec le sol, de fournir presque une sorte de contre-modèle à ces figures d'élévation, la transcendance, etc., qui sont assez traditionnelles dans l'art occidental. Et on retrouve en fait ces motifs-là du sol, de une sorte d'empreinte sur le sol, sur le racinien, les paysages qui sont très très présents en fait dès la deuxième salle, en fait la fin des années 60, milieu des années 60. Et puis ces pieds qui sont très très présents, qu'on voit beaucoup sur les sculptures, où effectivement elles sont complètement disproportionnées. Et qui donne une forme de quelque chose d'assez robuste, d'assez puissant, d'assez solide en fait. Mais cette assise, elle est toujours contredite ou nuancée par une forme de précarité des corps aussi. C'est-à-dire que ces grandes sculptures qui effectivement débordent hein, les limites de la figure humaine, bah elles sont entaillées, déchirées, elles sont elles-mêmes comme ça creusées. Et on le voit aussi dans des représentations plus, alors des sortes de d'alter ego. Ce sont ces séries des héros parées dans les années 60, où on voit notamment un autoportrait d'un peintre, en tout cas d'un artiste, avec une palette, etc. Donc qui est très puissant, avec un torse très développé, mais qui est tout enserré dans une forme d'enclos, qui a une main qui est prise au piège, un piège animalier, un tour de piège à loup. Donc il y a toujours cette forme de il n'y a jamais de valorisation outrancière, en fait, finalement, ni de l'artiste, ni de l'art, ni de la vie, etc. On est toujours sur une limite, et ça lui donne quand même une forme de d'anti-héroïsme ou de réalisme assez assez séducteur, quoi. Et moi j'ai été vraiment assez pris par ce travail-là, c'est-à-dire comment en fait on peut nier toutes les valeurs mais malgré tout compenser ça par une sorte de contact, de retour au contact, à la matière et à sa présence.
Bien, premier regard maintenant de Frédéric Bonnet sur cette exposition rétrospective Georg Baselitz.
Oui, étrange personnage que ce Baselitz. Et justement, la rétrospective, elle était très attendue et très bienvenue pour permettre de se faire une idée de ce que c'est Baselitz, parce que on l'a quand même trop souvent réduit aux figures la tête en bas. L'exposition montre quand même qu'il y a beaucoup d'autres choses et qu'il n'y a pas que ça. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans cette exposition et dans ce parcours, c'est de voir justement la construction d'un peintre, la construction véritablement d'une peinture. Parce que moi, tous les tableaux des années 60, je les connaissais pratiquement pas. On rentre avec ça, on s'en prend quand même plein la figure dès le début. C'est effectivement un enfant de la guerre et le trauma de la guerre explose littéralement dès la première salle. Et Florian parlait des pieds, de l'importance des pieds à l'instant. Et une des premières choses véritablement qui vous attrape, c'est une série d'une dizaine de tableaux qui sont des fragments de corps essentiellement des pièces. Alors, là, on est au début des années 60. Il y a aussi juste en face un portrait de 1959 d'un ami à lui qui n'est mentionné que par ses initiales, qui est complètement écrasé et dilué sur la surface. Et moi, ce qui m'a intéressé de voir, c'est comment dans son parcours, en fait, Baselitz a systématiquement cherché à construire de la peinture, à construire un motif, à être capable de mettre en œuvre une peinture, un tableau qui ne soit pas simplement de la figuration. D'ailleurs, pour expliquer entre guillemets, je ne crois pas que ce soit le terme adéquat, mais pour qualifier son inversion des sujets dans beaucoup de ses tableaux, lui, il parle d'éviter de créer des images anecdotiques et descriptives. Donc, il veut sortir de la figuration, mais il ne veut pas non plus complètement rentrer dans l'abstraction. On voit qu'il y a vraiment une recherche d'une sorte de troisième voie sur la peinture. Moi, j'ai été assez stupéfait par ces tableaux de la fin des années 60, début des années 70, dans lesquels les motifs sont éclatés. Alors, évidemment, ça peut se voir comme une suite logique de tous ces pieds qui étaient là des tableaux différents. Mais il y a vraiment une question là dans ces tableaux composés de plans superposé, éclaté, une question de la construction de l'image. Et la construction de l'image, la construction du tableau, on voit que c'est un motif qui est absolument récurrent, de même que l'est le corps qui traverse absolument toute l'exposition. Et donc, il y a quelque chose du politique qui s'exprime à travers la mise en scène du corps depuis la sortie de la guerre jusqu'à aujourd'hui et donc qui se matérialise par une recherche, oui, qui est toujours un petit peu ambiguë aussi, parce que le personnage est assez ambigu. Il dit qu'il n'est pas néo-expressionniste et qu'il n'est pas expressionniste. Il y a quand même un tableau immense qui est un hommage à Die Brücke et au mouvement expressionniste allemand. Mais voilà, il y a un drôle de balancement, mais au final, moi, j'ai trouvé cette exposition assez saisissante.
Il cherche quoi ? On parle de chercheur, on parle de sa recherche. Il cherche quoi, Baselitz, Corinne Rondeau ?
Il faudrait que ce soit lui qui répond, mais...
Dans ce que vous voyez, vous ?
Non, mais moi, j'étais très étonnée, parce que dès le début, cette pleine pâte, c'est boueux. Même les couleurs sont boueuses, et ça tire sur le jaune, le rouge, l'ocre... la terre de Sienne, enfin, il y a quelque chose qui tire vers la terre, vers la boue. Alors, les pieds, la gravité, on peut associer. Mais je me disais, mais bon, entre ça et justement les érections du début, hein, on sent qu'il y a de la pulsion, on sent qu'il y a il y a aussi une manière de vouloir frapper l'œil. Et moi, j'ai la sensation qu'il cherche dès le début à faire tenir une peinture. Il cherche à faire tenir debout ces représentations qui sont d'une laideur quand même parfois sidérante. Mais elles sont tellement excessivement laides qu'on n'en est pas, je dirais...
Que ce n'est pas la question qui se pose.
Non, ça ne l'est plus. On se dit effectivement par où ça passe, qu'est-ce qu'il va en faire. Et là, on voit qu'il y a une sorte de faux cubisme qui arrive, il découpe l'image, pour revenir à ce que dit Frédéric. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, il se cherche, c'est tout. Et il se cherche à travers une représentation dont il ne veut pas dire grand-chose de ce qu'elle est, sinon d'en passer par parfois des scandales, de la misogynie, on le sait, tout ça. Mais moi, je me suis dit, bon, pour passer de cette espèce de facture lourde, pesante, présente, pour dire là, 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 c'est là, là, et encore là. Et quand on arrive vers les dernières peintures, d'abord, quelque chose se dégage de la pleine patte dans les années 2000, où il reprend justement ce qu'il appelle ses remixes, puisqu'il travaille par série, je crois qu'on l'a déjà dit. Et puis ces derniers tableaux qui sont... Voilà, comme une projection à la bombe, des choses qui s'assèchent sur la surface, des formats plus grands encore, des corps qui ne sont que des fantômes, des silhouettes qui tentent de se dissoudre dans cette petite neige. C'est pas du cosmos, c'est pas... Mais j'ai eu la sensation que d'un coup, pour moi, Bazlitt était le circuit qui va de la vanité en peinture. Voilà, ce n'est que ça, mais ça doit être ça, à... Memento mori, c'est-à-dire rappelle-toi que tu vas mourir. Et il est passé de ce corps, cette manière de vouloir faire de la peinture un corps, y compris de la rendre à l'envers, et quand on veut pas transcendance, justement, il y a cette manière de dire il n'y a que du corps, et la peinture me permet de le mettre dans tous les états, même à la tête à l'envers, mais aussi sur le côté, puisqu'il y a des choses qui sont à l'horizontale et pas qu'à la verticale. Et d'un coup, là, on passe à la radiographie, au fantôme, c'est-à-dire quelque chose qui se dissout. Et j'ai l'impression qu'en fait, Bazlitt n'a fait que se chercher dans sa peinture, alors peut-être avec excès parfois, avec une volonté terrible d'être dans le refus. Alors évidemment, ce côté brutal, brutaliste même, qu'il peut avoir, peut être un peu pénible. Et en même temps, quand on voit cette manière dont ça se dissout, on se dit qu'il n'a jamais été que... insincère peut-être dans les postures, mais en même temps c'était sa sincérité. Sa sincérité qui était, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre de ce corps avec lequel je me suis battue à la fois à la pleine force de mon âge, quand je suis jeune et plein de pulsions. Et effectivement, pour moi, ça relève plus de la pulsion et d'une brutalité que d'une force, parce que j'aime la force, mais là, il est dans l'excès de la force, donc c'est plus de la force. Et donc je trouve qu'il y a quelque chose de testamentaire dans cette rétrospective, et il y a quelque chose de presque d'un abandon dans ces dernières heures qui sont saisissantes, parce qu'on ne reconnaît plus Bazlitt, et pourtant il y a quelque chose de ce corps-là qui est déjà là, avec ces détails que nous avons abordés.
Ces dernières œuvres, alors, Florian Guettet, quel regard vous portez sur elles ?
C'est vrai qu'elles sont assez désarçonnantes, parce que déjà on a une palette de couleurs qui est moins habituelle, on a quelque chose de très adouci dans ces formes de rose un peu artificielles, une sorte de fond gouttelé comme ça, un peu cosmique. Parmi elles, il y a quand même ce grand tableau qu'on voit tout à la fin, en fait l'exposition se termine dessus, qui a un portrait à l'envers d'un homme qui est complètement déchiré en fait en son milieu de haut en bas, qui est pour moi une pièce vraiment saisissante. Par rapport surtout à ce qu'il y a autour, où moi j'ai trouvé ça, voilà, où j'ai pas su vraiment comment réagir, j'ai trouvé ça un peu moins compréhensible en fait en regard de l'ensemble de la rétrospective. En revanche, les remixes par contre m'ont beaucoup plu, notamment cette façon donc de superposer en fait en des cases, hein, vraiment d'une façon presque narrative, comme une sorte de rébus imagé comme ça, de voir une forme de portrait vaguement hitlérien, enfin qui ressemblerait quand même à Hitler, sur un morceau de chair qu'on pourrait très bien ramener à la peinture de Bacon, etc. Il y a comme ça une forme d'assemblage que je trouve très juste par rapport à lui, et puis toujours cette façon de ne jamais voir dans l'ensemble, nous orienter pour voir de façon assez stratifiée. Moi je me suis presque demandé si c'était pas, je sais qu'il revendique pas évidemment cet intérêt politique, et que même si on a des signes comme ça, on a l'aigle germanique, on a etc., mais qu'effectivement on pourrait pas parler d'un discours politique que porteraient ses œuvres. En revanche, je me demande si son regard qui se cherche tout le temps est pas aussi un regard traumatique qui cherche tout le temps à donner une représentation à l'irreprésentable, quoi. Et donc du coup, à forcément relancer le jeu comme ça. On le voit notamment dans Une nature morte qui arrive en 76, hein, qui est pas une nature morte des débuts, hein, qui arrive quand même à un moment où vraiment la toile est saturée, très très sombre, les éléments sont absolument impossibles à distinguer, sauf que petit à petit on commence à repérer des objets, etc. Effectivement, là on retrouve comme l'a dit Frédéric, sur une forme d'interrogation sur comment naissent les images, c'est-à-dire comment retrouver l'image alors que ça ne va plus de soi. Ça ne va plus de soi parce qu'on est traumatisé aussi par les images de guerre.
Allez, encore un moment sur les dernières œuvres avec vous, Frédéric Bonnet. Qu'est-ce qu'elles disent de l'état présent? Parce que bon, il est quand même de ce monde, Basalis. Son œuvre n'est pas tout à fait achevée.
Elles sont complètement spectrales, ces images aussi. Et puis, pour revenir sur ce grand tableau avec le corps découpé en deux, il y a aussi un élément qui est très important, c'est qu'il y a un des pieds qui est détaché. On en revient quand même, ouais, au pied, à la série des pieds du tout début. Et le pied détaché du corps, c'est un peu un pied dans la tombe déjà. Je vais pas faire de la psychologie de la psychologie de quartier, mais moi ce qui m'intéresse dans tout ça au final, c'est que on est quand même avec tout ça dans un étrange mélange d'images intérieures et de commentaires sociaux, mais sans jamais verser dans la représentation du réel qui l'entoure. C'est aussi pour ça qu'il y a ce quelque chose vraiment d'étrange, c'est que il peint des gens qui l'entourent, notamment sa femme, qui est le personnage le plus représenté dans toute sa carrière, mais il, c'est vraiment quelque chose d'assez étrange. Il peint sans représenter parce qu'il y a des artifices, parce qu'il y a une laideur voulue et assumée. Je pense que la laideur au tout début, elle est là pour provoquer. Elle est là parce que quand il est à Berlin-Ouest après la guerre, il ne se reconnaît pas dans la société consumériste de l'après-guerre. Et d'ailleurs, il n'a jamais du tout versé dans un côté pop. Il veut offenser les conventions et il veut offenser le goût bourgeois, et moi j'ai l'impression que in fine Baselitz essaye de trouver une manière de peindre sans représenter, et ça c'est quand même assez audacieux.
Georg Baselitz, cette rétrospective est visible jusqu'au 29 avril à la Fondation Beyeler à Bâle. Il y a un très beau catalogue de l'exposition en anglais ou en allemand, qui a été édité par Adje Kanz. Et à suivre dans la dispute, alors ça ne plairait pas à Baselitz, on va parler d'une artiste femme. C'est parmi les propos outranciers de l'artiste, les femmes ne peuvent pas être des artistes, c'est de l'évidence pour lui. On va en parler avec Anne Collier au FRAC Normandie-Rouen, il parlera après de l'art brut à la maison Victor Hugo.
France Culture,
la dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de la dispute art plastique avec cette exposition du FRAC Normandie-Rouen consacrée à Anne Collier. Il s'agit de la première monographie de l'artiste américaine née en 70 dans une institution française, première exposition monographique. On y découvrira les œuvres, quelles qu'on soit, à partir de photographies trouvées dans différents supports et qui questionnent, comme l'indique la présentation de l'exposition, le regard porté par et sur les femmes. C'est cet angle-là que l'artiste a en tout cas choisi d'explorer au FRAC Normandie-Rouen. Allez, on va entrer dans les bâtiments du FRAC Normandie-Rouen en suivant Florian Guettet, cette fois-ci, pour nous parler d'Anne Collier, que vous connaissiez, vous ?
Alors que je ne sais pas du tout, mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir au FRAC Normandie-Rouen, qui finalement avec cette exposition poursuit une politique curatoriale assez assumée autour de la photo, après un cycle en fait qui était très focalisé sur la notion du territoire. C'est ici le choix d'interroger la photographie comme dispositif qui est fait. Donc cette artiste américaine qui expose pour la première fois hein, dans une exposition d'envergure personnelle en France. Donc forcément, c'est vrai que j'avais peu d'occasion finalement de la voir dans le pays. Elle a de toute façon quelques photos dans les collections nationales, mais enfin ça reste quand même une présence assez discrète. C'est une photographe qu'on pourrait rattacher à une veine plutôt conceptuelle, à la Picture Generation, à cette manière aussi de réemployer en fait les images des masses médias dans ses propres photos et les mettre en abîme puisqu'elle photographie des photographies et qu'elle met bien en lumière le cadre, les bords, les textures usagées parfois des documents qu'elle prend. Alors c'est une exposition qui s'organise sur deux niveaux. La première, donc au rez-de-chaussée, est consacrée vraiment à l'image de la femme et à ses représentations. Souvent dans l'univers médiatique, mais aussi dans l'univers plus propre à la photo, et puis aussi avec les diapositives, comment en fait ces représentations de la femme médiatique, instrumentalisées, sexualisées, ont été absorbées, assimilées par des gens qui se prennent eux-mêmes, donc des filles hein, plutôt, qui se prennent elles-mêmes en photo dans leur salle de bain ou leur environnement intime au quotidien. Et puis en haut, une partie, on va dire, un peu plus conceptuelle, plus discursive, avec donc c'est là aussi on a la première apparition vraiment des mots en tant que tels, avec notamment des listes de choses à faire complètement vides ou des sortes de un manuel comme ça de coaching et de d'auto-accomplissement décliné sur plusieurs fiches hein, une sorte de post-it qu'elle a donc agrandi et présenté dans une série de cinq cadres en face desquels il y a sa dernière série en date, qui sont des gros plans de pochettes de 33 tours sur lesquels sont représentées des femmes en train de pleurer, et donc elle choisit de prendre un seul œil et d'agrandir, parfois jusqu'à ce qu'on voit vraiment le grain hein, de façon assez appuyée, et de présenter ces sortes de demi-formats pratiquement, puisqu'ils sont agrandis, mais présentés dans un format assez étroit, et on finit sur une forme de diptyque, là aussi encore sur ce motif lacrymal, on va dire, avec une représentation d'une femme en train de pleurer et puis son négatif qui là change aussi tout la perception puisque la larme devient presque une sorte de cicatrice ou de faille et que effectivement on comprend que ce qui intéresse Anne-Claire c'est travailler entre les deux, entre cette apparence et cette sorte de d'image interne et d'aller au-delà des apparences pour aller chercher la femme qui s'y exprime. Voilà, moi c'est j'ai vraiment beaucoup aimé cette exposition, j'ai beaucoup aimé son accrochage, son truc très très aéré, très épuré à l'image même du travail de l'artiste hein, qui ne s'encombre pas de détails hein, on va vraiment dire ça, elle va droit au but mais tout est vraiment tiré au cordeau avec voilà la récurrence en fait d'un motif qui est son propre œil en fait qu'on voit dès l'entrée puisque la première œuvre c'est une photo de son œil plongée dans un bac de développement en fait et qui voilà ajoute du cadre au cadre pour bien montrer que le regard c'est toujours une affaire de médiation, de surmédiation, et donc elle nous rend sensibles à cet entre-deux-là.
Frédéric Bonnet, à présent.
Oui, moi ce qui m'intéresse dans le travail de Anne Collier, c'est ce rapport très clinique, froid et distancié à l'image, justement, qui est formidablement mis en scène dès l'entrée dans cette exposition avec cette œuvre dont vient de parler Florian, de la photo de son œil dans un bac de développement, sachant que sur un mur un petit peu plus loin, il y a une autre photo de son œil, mais qui là est passée au massicot et qui a été coupée en deux. Ce qui est quand même pas une image anodine. Ce qui est intéressant dans le travail, c'est une artiste californienne qui a été formée avec notamment John Baldessari et James Welling, donc pas rien en termes de culture photographique. Et c'est une artiste qui a étudié l'argentique et puis qui ensuite est passée au numérique quand elle a commencé à travailler. Et je crois que ça l'a amenée à développer un autre rapport à la photographie et à l'image. Et que c'est peut-être ça qui a amené cette, cette texture et ce rapport à la plasticité et à la perfection de l'image qu'a amené le numérique. Mais, et c'est là où le travail est assez fin, la perfection de l'image, elle est là aussi pour montrer de l'imperfection. Parce que quand vous prenez le temps d'aller regarder, d'étudier les détails des photos, tous les documents qu'elle photographie, souvent des vieux magazines ou des pochettes de disques, elle n'utilise pas le numérique pour aller en masquer les défauts. Au contraire, presque, elle les exacerbe presque par le regard clinique qu'elle porte dessus. Ce qui fait que ces images ont un statut assez étrange et au final, pour ce qui est de ces photographies de documents, on est presque face à une nouvelle forme de nature morte, me semble-t-il, où c'est des photos d'images et qui sont imposées par ce changement de paradigme. Et une autre chose qui, moi, m'intéresse énormément dans ce travail, c'est l'obsession à la fois pour l'œil et à la fois pour le regard caméra. Il y a plusieurs... l'appareil photo est omniprésent dans l'exposition, à la fois en tant qu'outil tenu par des femmes qui sont en train de prendre des images, des photos, ou alors il fait partie intégrante du corps, et ça c'est beaucoup plus audacieux. Ça c'est des choses qu'elle a retrouvées dans des revues des années 70-80, des revues photos, notamment cette incroyable couverture d'un magazine qui s'appelait Zoom, où une femme très dévêtue, allongée sur un canapé,
elle est nue,
à la tête, très dévêtue, sa tête est remplacée par un appareil photo énorme. Et donc il y a une relation entre le corps et la machine qui moi m'a fait penser au film de Bertrand Tavernier, La mort en direct. Avec ce personnage qui s'est fait greffer une caméra dans l'œil et qui va donc pouvoir suivre la mort de Romy Schneider, en l'occurrence, qui est condamnée et il l'a séduit pour pouvoir assister à sa mort. Et donc, il y a une forme de voyeurisme et aussi de confiance qui est trahie dans ce film. Moi, ça me ramène dans le travail d'Anne Collier et dans cette dissection de la photographie, a un lien affectif à l'image dont on se demande s'il peut encore exister ou pas avec les bouleversements d'aujourd'hui.
À propos de cinéma, dans le cadre de cette exposition, il y a eu à 2 semaines maintenant déjà une projection du film Les yeux de Laura Mars, hein, Corinne Rondeau. Ça ne nous rajeunit pas. Il ne faut pas oublier que c'est un scénario de John Carpenter. C'est ça qui compte. Bon, pardon pour Erwin Kerschner qui l'a réalisé. Mais bon, c'est l'histoire de cette photographe de mode qui a quand même des visions autres que celles par l'œilleton de son appareil photo. Bon, celles et ceux qui n'ont pas vu Les yeux de Laura Mars. Hein. Il faut qu'il voit, hein, Corinne Rondeau.
Oui, évidemment.
Vous confirmez.
J'acquiesce, je réacquiesce. Hein,
vous surabondez.
Oui, absolument.
Très bien.
Non, mais c'est vrai.
Concernant Anne Collier.
Eh ben, c'est Laura Mars, figurez-vous.
C'est pour ça que je vous
en
parle.
Non seulement, effectivement, c'est cet œil qui nous accueille, cet œil sans rien, sans visage. C'est aussi des appareils qui sont, des flashs de femmes qui sont prises dans des miroirs où on ne voit pas leur visage, ou alors, comme l'a dit Frédéric, un appareil photo à la place d'un visage. Et donc, moi, je trouve ça absolument génial comme œuvre. Enfin, ce travail me stimule beaucoup. D'abord parce que 1970, c'est quand même l'époque de la domination, de la démocratisation pornographique, on va dire.
C'est l'année de naissance d'Anne Collier, je le rappelle.
C'est ça. Et en même temps, cette époque-là, c'est aussi ça. Il y a des philosophes, mais qui l'ont dit au moins, c'est une sorte d'affaiblissement de la dimension érotique. Et quand on passe, notamment de cette époque-là où elle travaille avec ses pochettes de disques, où elle découpe, où elle récupère les magazines de ces époques-là, elle est en pleine société de communication, de cette société de spectacle. Et donc elle travaille, elle voit ça. Sa matière, c'est une manière d'être dans le voir et le pouvoir, puisqu'en fait, c'est une sorte aussi de dire instrumentalisation du corps de la femme, etc. Bon, ça, c'est tous les discours absolument absolument d'une banalité folle qu'on peut. Mais en même temps, c'est une femme, c'est cet œil de femme qui nous accueille. C'est une manière de nous dire je suis avec vous, en train de regarder tout ça. Donc elle est à l'intérieur de son travail elle-même, et ça, c'est une des choses les plus importantes et les plus. Je veux dire, ça cristallise énormément à l'intérieur de ça, notamment cet œil dont vous avez parlé qui est massicoté. Donc c'est une skise, elle est dans la skise, voilà, elle montre à la fois quelque chose du regard et en même temps, elle pose la question de d'où ça regarde. C'est d'ailleurs une des questions dans ces éléments de scriptuaire où il y a des questions d'auto-évaluation, d'où ça regarde, et en même temps, c'est qui regarde quoi. Et quand on a sur le côté persona, une affiche de persona de Bergman, mais aussi justement, il y a des photographies qu'elle a faites des yeux de Laura Mars, notamment quand Laura Mars, elle est derrière son appareil, et quand elle se lève ou elle voit une deuxième vision. La skisse est encore là, c'est-à-dire je vois, mais je peux voir aussi l'autre image qui n'est pas là. Et le film va nous donner à voir les deux images. Mais dans cette exposition, il y a aussi ça. C'est-à-dire que même de manière très pratique et pragmatique, elle prend une carte postale qu'elle va très à grandir à un très grand format d'une africaine en train de faire on est dans une tribu africaine, elle a un décorum comme ça qui monte de rond, qui monte des hanches jusqu'à la poitrine, et l'appareil photo qu'elle tient devant le visage, le rond finit la dimension décorative, et de l'autre côté elle a fait la photographie du dos de la carte postale. Donc ces rapports cliniques ne sont pas qui pourraient renvoyer à une dimension à la fois fétichiste mais aussi un aspect conceptuel, pour moi ne le sont pas. C'est une manière de dire comment aujourd'hui je peux recadrer ce qui est déjà cadré, et cadré dans une société de communication et une dimension ultramondaine et pornographique d'une époque, qui redevient justement la manière de reposer la question du regard, la question du cadre à l'intérieur de la skisse. Elle est à la fois celle qui photographie et elle est aussi l'objet du genre, c'est-à-dire femme. Je suis la femme qui photographie ces femmes qui ont été prises pour des objets. Et alors ça, c'est absolument merveilleux, parce que c'est quelqu'un qui dit je suis à l'intérieur de mon travail tout en étant dans un rapport de découpage. Et je repose la question même du cadre. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre en photo quand justement on est encore avec de l'argentique par rapport au numérique? Et ces éléments-là deviennent effectivement non pas une opposition politicarde bidon sur je m'oppose au numérique ou je m'oppose à l'objet féminin, etc. C'est au contraire être presque bartésienne, je vais dans le neutre, ni l'un ni l'autre, mais à travailler avec ça en même temps. Ce qui lui donne en fait une dimension extrêmement tranchante, et c'est la raison pour laquelle je ne lui trouve pas cet aspect clinique. Je lui trouve quelque chose d'une très grande force d'aller au vif des choses en termes de une image, c'est un cadre, on découpe, on enlève un sujet, et ses rapports aux larmes, moi je trouve ça admirable, indépendamment de la dimension matérialiste qu'elle donne à ses visages, la peau, le grain, etc. Mais ses larmes, c'est une larme, et c'est presque proustien, allez, allons-y, cette manière dont Proust rappelait finalement que la larme, c'est aussi ce qui nous libère des instants du passé, de ces amours qu'on a perdus. Et Laura Mars, je veux dire, elle dit dans le film, je peux plus pleurer, puis à la fin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est au téléphone, l'image s'arrête sur elle pleure. Voilà. Et donc, c'est cette manière de rapporter une sorte de désir, puisqu'en fait, le film de Laura Mars, c'est passé de l'excitation, le meurtre, au désir, c'est-à-dire l'amour. Et ça, c'est absolument admirable.
Craig Bonnet.
Oui, moi, ce que je trouve très, très bien joué dans le travail, c'est que, pour continuer sur cette idée de la surreprésentation féminine dans le champ de la photographie, ça parle de quoi? Ça parle du fantasme. Et Anne Collier, elle retourne très habilement cette idée du fantasme, parce que d'un côté, elle utilise ces images de femmes qui sont là pour, entre guillemets, vendre de la photographie, et de l'autre côté, elle montre des femmes qui sont des faiseuses d'images, qui sont des productrices et qui sont plus seulement des objets. Et je trouve que ça nous renvoie aussi, je parlais tout à l'heure du lien affectif à l'image, il y a une autre série d'œuvres, alors là complètement différentes, mais qui sont des photographies de cassettes audio qui sont des programmes pour se donner confiance, construction de soi-même, genre de choses comme ça. On est là aussi dans une sorte de fétichisme, mais aussi dans une fabrique de soi et des sentiments. Et on dépasse ce registre de la corporalité, mais finalement, il y a quand même un questionnement récurrent qui est là depuis le début, alors que visuellement, ça n'a absolument rien à voir. Et je trouve ça très malin.
Dernier mot, Florian Guettet, sur l'exposition Anne Collier au FRAC Normandie-Rouen.
Oui, je trouve qu'elle a avec beaucoup de concision, qu'elle arrive à genrer une question qui est revenue dans l'actualité de manière un peu triste, puisque c'est la notion d'appareil, puisque Jean-Louis Desottes, qui l'a beaucoup porté, est décédé la semaine dernière. C'est vrai que j'ai beaucoup pensé à lui quand j'ai vu cette exposition-là, en me disant, mais finalement, l'appareil, c'est quoi? Il emprunte ça à Benjamin, il dit, mais l'appareil, c'est la faculté de mettre en forme une sensibilité d'une époque. Et Anne Collier arrive à mettre la question du genre au milieu de ça, en disant, mais finalement, l'appareil, il peut être autant un instrument de domination que d'émancipation, qu'effectivement, entre les women with a camera et les women with camera, ben, on a cette dialectique entre une femme qui subit finalement la vision populaire, phallocentrée, hein, très, 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 très clairement, et puis des femmes qui s'emparent en fait de l'appareil pour pouvoir s'émanciper. Et ça, c'est assez fort. On voit ça, enfin, il y a comme ça une forme de fusion aussi des du dispositif et de la figure humaine, notamment dans une très belle photo que je voulais citer, qui est une photo de profil. On voit une femme très élégante, très droite, qui est vraiment pris sur le côté. Donc on voit son nez, etc., qui dépasse et qui se prolonge en fait dans un appareil photo qui est lui tout droit. Et même si on pourrait voir quelque chose de phallique dessus, on voit qu'elle a l'emprise dessus et qu'elle prend le pouvoir sur cet appareil. Et ça m'a fait vraiment du bien de voir ça.
Vous donnez très envie, hein, d'aller au FRAC Normandie-Rouen pour découvrir cette exposition Anne Collier. C'est jusqu'au 25 mars seulement. Et d'ailleurs, sur Twitter aussi, beaucoup de commentaires très positifs de Vanessa Cléré, Eric Godin, Mossio J. Donc, Anne Collier à découvrir à Rouen.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute art plastique, en nous rendant cette fois à la Maison Victor Hugo, place des Vosges à Paris, pour y découvrir l'exposition donc La Folie en tête, aux racines de l'art brut, dont les commissaires sont Gérard Audinet, Barbara Safarova, avec une scénographie signée Alexis Patras et assistée par Lucie Leblanc. C'est vrai qu'avec un frère et une fille qui sont tous les deux morts dans des asiles, voilà, Victor Hugo pouvait être sensible à la question de la folie, terme qu'il faut entendre ici au sens générique. L'exposition se consacre, comme son titre l'indique, au lien entre folie et création artistique grâce aux collections, et là on y vient vraiment, constituées par plusieurs psychiatres du milieu du 19e jusqu'à l'entre-deux-guerres mondiales. Un premier tour avec Frédéric Bonnet.
Oui, je dirais plus. C'est une exposition de plus consacrée à l'art brut. C'est pas, j'ai rien contre l'art brut. Hein, j'ai pas du tout de problème avec ça. Mais cette exposition ressemble à peu près à toutes celles que j'ai pu voir sur le sujet. Et la spécificité éventuellement qu'elle aurait de se découper entre, elle présente les œuvres de 4 collections qui ont été assemblées par des médecins dans 4 pays différents, une en Écosse, l'asile de Villejuif, la collection Morgenthaler en Suisse et la collection assemblée par Hans Prinzhorn en Allemagne à Heidelberg. Voilà. Hormis ça, donc savoir que ce sont des collections qui ont été assemblées en milieu hospitalier, bah, ça fait pas beaucoup avancer la science sur le sujet, je dirais, parce que moi j'ai rien appris de nouveau par rapport au sujet de l'art brut. J'aurais quand même.
Mais si on n'y connaît rien.
Bah, si on n'y connaît rien, oui, il y a un début à tout.
Est-ce que c'est un bon début?
Dans l'absolu, oui, il y a des choses à, il y a des choses à regarder. Après, moi, ça ne, j'aurais aimé qu'on m'explique, puisque ce ne sont que des collections qui ont été constituées en milieu hospitalier, j'aurais bien aimé être éclairé sur le fait de savoir si des œuvres produites en milieu hospitalier et encouragées par les médecins avaient des spécificités ou pas. Zéro sur le sujet. Ensuite, mon œil a quand même un peu frétillé à l'entrée de la dernière salle consacrée à la collection Prinzhorn, parce que le texte introductif explique que des œuvres de la collection ont été utilisées par la propagande nazie pour les composer, pour les comparer à la supposée dégénérescence de l'art d'avant-garde. Je me suis dit, voilà un sujet, voilà quelque chose d'intéressant. Fausse alerte, il y a absolument rien là-dessus dans la salle, et on continue, voilà. Filer encore des perles avec le même type d'œuvre un peu partout. Donc au final, si on est passionné par l'art brut, oui, il faut y aller. Si on a une demi-journée à perdre, on peut y aller aussi. Si on veut apprendre quelque chose d'un petit peu nouveau sur le sujet, ben, autant rester à la maison, ouvrir un bouquin.
Ou prendre le TGV pour aller à Caen. Voilà, Anne Collier, non, je... Allez, continuons ce tour de table avec Corinne Rondeau à présent pour cette exposition à la Maison Victor Hugo.
Oui, on peut aller du côté de Frédéric. C'est vrai qu'on n'apprend pas grand-chose. On voit en tout cas des typologies réapparaître, qu'on connaît de l'art brut, c'est-à-dire l'utilisation de la pleine page, l'écriture systématique, les chiffres. On peut voir aussi l'usage de renversement du haut et du bas. On peut voir des structures géométriques extrêmement importantes. On peut avoir le grand plaisir de voir plusieurs Wolfli, quand même Adolf Wolfli de Bruno de Charme, qui est très, très heureux de les posséder. On est très heureux aussi de les voir. On peut voir aussi des croix, hein, indépendamment de cette géométrie. On peut voir ces scénettes avec ces dialogues qui relèvent d'une sorte de sadisme de certaines scènes. On peut voir des choses qui ont été achetées par Breton, la petite soupière, je crois que c'est là carrément, c'est un objet, hein, c'est... On peut voir pas que de la peinture ou de l'aquarelle ou du dessin, mais aussi des collages, par exemple, de Madame St, qui sont très beaux, 1891, c'est quand même pas rien dans la collection Prinzhorn. Moi, par contre, ce qui m'a un petit peu... je me suis arrêtée sur ce que je ne connaissais pas, finalement, indépendamment de ces typologies qu'on peut retrouver dans l'art brut, avec 4 médecins, dont 2 notamment, sont soit s'adonnent à la peinture, soit sont diplômés en histoire de l'art, ce qui n'est pas rien, ça veut dire qu'ils sont quand même attentifs à une certaine forme de production. C'est vrai j'aurais voulu qu'il y ait un discours plus médical, c'est-à-dire pourquoi on les mettait à ce travail-là, pourquoi est-ce que ça avait une dimension prophylactique ou thérapeutique, on le suppose. Moi, ce qui m'a surprise, c'est la collection écossaise du docteur Brown, puisqu'il y a beaucoup de paysages avec des scènes quasiment allégoriques, et dont on voit en fait que l'audit aliéné est quand même quelqu'un qui reproduit sa réalité. On voit des institutions, on voit des sortes de prisons. D'ailleurs, il y en a un qui fait la maison du docteur Brown sur une île. C'est assez merveilleux comme petite peinture. Il y a quelque chose donc d'un romantisme, il y a quelque chose d'une époque. Et là, d'un coup, ces aliénés qu'on dit aliénés me montrent autre chose que ce qu'on connaît d'habitude, plus automatique, plus à l'Artaud, on va dire. Hein. Bon, ça nous rappelle du Baselitz, mais bon. Donc là-dessus, je me suis dit, tiens, ben voilà, il y a quelque chose de la société qui rentre à l'intérieur de cette dite aliénation. Alors, est-ce que là, pour le coup, les médecins leur montraient des tableaux ou une histoire à laquelle, voilà, ces choses-là, je les ignore. Parce que là, c'est vraiment une bascule qui s'opère entre un romantisme supposé de gens qui sont aliénés et ben, des dessins ou des petits tableaux qui relèvent vraiment de ces nettes. Bon, alors, c'est pas des grands artistes, mais qui tiennent dans leurs feuilles, etc. Et puis après, j'ai été très séduite par le voyageur français. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire.
Il y a une sorte de consensus autour de la table, que je ne connaissais pas
du tout. Et là, d'un coup, vous avez des vagues décoratives abstraites. On a l'impression que 2015 rencontre 1822. Et là, on dit deux temporalités. Alors, je reprends le mot tout à l'heure, la skise. Et ce type, on ne sait pas, mais on a l'impression que cette... cette dimension décorative vient manger toute la représentation la plus réaliste qui soit. Alors une tapisserie, alors c'est Vénilia qui rencontre William Morris, voyez, et là on se dit mais c'est absolument génial. Et cette manière dont il y a des vagues décoratives comme ça, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Alors ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça a vraiment une dimension de la psychose qui est ma réalité rencontre. Et là d'un coup j'avais l'impression de voir sur papier la réalité du psychotique qui va bouffer la réalité de la représentation banale du névrosé. Je trouvais ça génial.
Florian Guettet.
C'est vrai que c'est une exposition sans parti pris et c'est dommage parce que on avait un lieu qui était quand même Victor Hugo, la maison de Victor Hugo, donc on se disait bah, comment on est passé de l'aliéné qu'on enferme et qu'on ne considère pas à au génie de l'art psychopathologique au début du XXe. Bah, entre les deux, il y a une articulation qui s'appelle le romantisme. Bon, bah, ça c'est très vite évacué. De la même façon, dans l'exposition, on nous présente 2-3 documents d'archives sur Eugène et Adèle, et puis ensuite on passe à autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a comme ça une forme de présentation assez neutre et systématique de ces quatre collections là. Donc à partir de ce moment-là, bah, il faut se reporter sur les œuvres plus que sur l'exposition ou le choix. Effectivement, là, on peut trouver des choses assez plaisantes. Donc évidemment, les Wolf Lee, moi, j'étais quand même content de les voir. Les Peter Mayer aussi, parce que j'en avais jamais vu, je crois. Et puis des découvertes comme le voyageur français. Mais par-delà, c'est vrai qu'il y avait ce thème des avant-gardes qui est annoncé à la fin, mais qu'on connaît quand même, etc., de se dire effectivement il y a une forme de contemporanéité en fait de ces pratiques là avec les recherches des avant-gardes qui eux-mêmes par exemple pensant à Combra, etc., bon qui sont un peu plus tardifs hein, mais qui se disent aussi arrêtons de raisonner, arrêtons avec le discursif, faisons confiance à notre spontanéité, à nos affects, à notre inconscient, etc., et on pourrait dire que finalement l'art des fous avec beaucoup de guillemets ce serait un retour à ça. Donc il y avait des ponts comme ça à faire avec les avant-gardes, j'étais assez surpris, il y a notamment un petit triptyque anonyme, donc comme souvent, ça par contre c'est vrai que c'est un peu problématique, c'est vrai que souvent c'est soit donc des surnoms, soit
des initiales,
soit c'est anonyme, comme dans le grand ouvrage de Marcel Réjean en 27, L'art des fous, il n'y avait aucun nom de mine, donc il y a une forme d'instru... Pardon ?
1907,
j'ai dit quoi ?
J'ai cru entendre 27.
Pardon. 1907, qui est une forme d'instrumentalisation de ça, comme si c'était finalement pas des artistes évidemment à part entière, mais un petit peu des symptômes d'une culture développée à l'hôpital. Donc il y a ce petit triptyque anonyme de femmes à la peau très rose sur un fond bleuté vert qu'on imagine au bord de l'eau, qui m'a fait vraiment penser à des dessins impressionnistes, à des toiles impressionnistes. On a des portraits surréalistes à la craie de Franz Karl dans la collection Prisante que j'ai beaucoup aimé, des billets de banque expressionnistes de Else Blankenhorn à l'encre bleue qui associe l'argent à la maternité que j'ai trouvé assez intéressant, des emprunts aux arts premiers notamment dans les sculptures, donc c'est effectivement cette sorte de chiffrage ou de liste de jours de chiffres romains, arabes, etc. qui font penser à des listes conceptuelles voire même à ce qu'on avait vu chez Anne Collier avec cette forme de to-do list complètement vide. Donc et les collages effectivement, Heinrich Böll aussi qui fait des collages. Donc il y avait des ponts à faire assez surprenants. Ils avaient toute la matière pour puisque c'était là. Et effectivement, il y a pas de prise de risque et de position par rapport à ça. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et juste pour terminer quand même, moi s'il y a un truc sur lequel j'ai porté attention, c'est en fait comme ils n'avaient pas le droit forcément souvent, et c'était quand même dans des lieux d'enfermement. Qu'est-ce qui leur reste ? Alors, on est accueilli d'ailleurs avec une citation qui d'un aliéné qui dit bon, on m'a pas laissé c'est le couteau parce que j'aurais pu me suicider avec, donc forcément bon ben c'est un peu grossier mes traits, etc. Et c'est vrai qu'ils font avec ce qu'ils ont sous la main, quoi. Donc ils organisent par exemple des petites boîtes à couture et qui deviennent des sculptures et ils peignent ce qu'ils ont autour d'eux, et donc c'est pour ça qu'il y a souvent le médecin qui est représenté, le militaire ou l'institution judiciaire aussi qui sont représentés dans une forme de mystique assez menaçante.
Dernier mot, Corinne Rondeau.
Non, mais sur la question de l'anonymat, moi je trouve ça intéressant parce que justement c'est comme ça qu'on regarde un peu plus. Et lorsque vous dites Adolf Wolf Lee, vous êtes très content d'aller le voir très vite. Et donc moi je trouve que le rapport entre le nom et l'anonyme, c'est une des choses qu'il faut creuser aussi. Et juste un élément, la collection Marie, au début, c'était qualifié par les artistes devenus fous. Et dans un reclassement, c'est devenu au profit de les fous devenus artistes. Et ça je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a peut-être pas de choix pas qui a été pris au niveau artistique, au sens des avant-gardes notamment, parce que justement, c'est une manière de dire d'un côté les fous devenus artistes, ce qui est tardif, ça veut dire on a intégré la folie à l'art, alors que les artistes devenus fous, c'est une manière de dire l'art est une altérité radicale.
Point. Ça, c'était pour la maison Victor Hugo et cette exposition La folie en tête aux racines de l'art brut. C'est jusqu'au 18 mars, il ne faut pas traîner. Et puis sur Twitter, Cap Zofi nous dit, un peu hors sujet, mais savez-vous qu'à Bordeaux-Bègles se trouve un musée de l'art brut ? Personnellement, je l'ignorais. Donc, on va mener l'enquête, parce qu'on parle souvent, évidemment, notamment de Villeneuve-d'Ascq. Mais voilà, pour cette info, on va aller creuser. Et avant de conclure tout à fait l'émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Et cette semaine, c'est la jeune Louise Michon qui nous donne des questions, des réponses. On va commencer par le jeu d'hier soir, la question puis la réponse, Louise.
En quelle année a été inauguré le MoMA à New York ? Et la réponse était 1929.
Ce soir, on fait gagner des places de cinéma pour le film Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico qui est sorti aujourd'hui. Quelle est la question, Louise ?
Où est-ce que le court-métrage Leaf Hog Daudi Henry Darger, qui signifie vie et mort d'Henri Darger, réalisé par Bertrand Mandico, a été tourné ?
Si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales. Tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast de celle-ci. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain qui sera consacrée à la littérature. Nous serons à partir de 19h avec Lucille Comeau, Raphaël Léris et Laurent Nunez. Nous parlerons du livre de Delphine de Vigan, Les Loyautés, de celui de Frédéric Sériez, Betty Book, et enfin de celui de Vincent Almendros, Faire mouche.
France Culture.
Moumouche.
L'esprit d'ouverture. Tempérament. La collection de l'orgue et de ses musiques présente Bach et Sketch Convergence. Un nouveau disque de Thomas Hospital, enregistré sur l'orgue de l'Auditorium de Radio France. Un disque de la collection Tempérament.
Oui.
Ah, c'est déjà à nous. Et ben voilà, pour vous dire que 21h sur France Culture, Marie Richeux reçoit le formidable metteur en scène et auteur portugais Tiago Rodrigues. On parlera bien sûr à nouveau de son Bovary lundi prochain dans la dispute. Avant cela, le carnet de la création de Lavigne à 20h55, c'est Émeric Hainaut qui est l'invité. Et puis le troisième épisode de Stephen King on the Radio, Christophe Fiat. On the Radio, ça va être fini pour nous ce soir.